Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la mode jetable et le gaspillage de vêtements. Les anglo-saxons parlent de fast fashion. En gros, c'est le modèle H&M avec des prix encore plus bas souvent et des collections qui se renouvellent tout le temps pour susciter l'envie. Des vêtements produits à très bas coût dans des pays pauvre, avec le symbole du Rana Plaza, bien sûr, au Bangladesh. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, cet immeuble d'atelier de confection qui s'est effondré a fait plus de 1000 morts. Côté nord, les Européens consomment 4 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. 30% de ce qui est produit n'est jamais porté, voire jamais même vendu. Alors face à cette mode qui pollue, qui exploite, à qui profite vraiment la fast fashion? Les consommateurs doivent-ils se poser cette question simple? Qui fabrique mes vêtements? Une mode éthique est-elle possible? On va en discuter avec nos invités. Majdouline Sbahi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue. Vous publiez « Une mode éthique est-elle possible ?» aux éditions de L'Échiquier. Extrêmement instructif. On apprend beaucoup, beaucoup de choses dans votre livre parce que finalement, c'est un domaine qui est essentiellement couvert par les magazines de mode et donc qui font la promotion des marques puisque c'est comme ça qu'elles vivent et on n'a pas beaucoup d'informations sur l'envers du décor. Naïla Ajaltouni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du mouvement Éthique sur l'étiquette. C'est un collectif qui défend les droits des travailleurs, notamment dans le secteur du textile et qui a été particulièrement impliqué dans l'affaire du Rana Plaza. Également avec nous, Hélène Sarfati-Leduc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice d'un bureau de mode, le French Bureau, avec des consultants qui sont spécialisés dans la mode responsable. Vous nous direz comment vous travaillez, qui sont vos clients, qui s'intéressent maintenant à cette mode responsable, quels sont les enjeux économiques de cette nouvelle mode, encore tout de même assez confidentielle, il faut bien le dire. François-Guilain Morillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de la marque Veja. Alors ça, on commence à connaître des baskets éthiques fabriquées au Brésil. Vous étiez précurseur il y a 13 ans, vous êtes vendu aujourd'hui dans 35 pays et le président de la République, paraît-il, porte vos baskets, enfin le week-end.
Il paraît, oui.
Emmanuel Macron, pour ne pas le citer. Les voisins, les voisines, si vous portez sur vous du coton africain, tissé en Chine, coupé et cousu au Bangladesh, vendu et jeté en Europe, eh bien bienvenue dans la fast fashion. Comment sortir de cette mode qui pollue, qui exploite? Vous pouvez bien sûr nous appeler pour poser toutes vos questions si vous voulez mieux comprendre ce qui se passe derrière les vêtements que vous portez. 33 1 84 22 71 71. Et puis en fin d'émission, comme chaque lundi, l'Afrique qui gagne. Portrait aujourd'hui d'une voisine burundaise, Annie Darlene Dorimana, 26 ans. Elle est fondatrice de l'organisation pépinière de jeunes professionnels. Et elle produit des accessoires de mode à base de plastique recyclé.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Majdouline Sbahi, alors expliquez-nous, pour commencer dans l'émission, comment fonctionne ce qu'on appelle la fast fashion, ou plutôt comment défonctionne la mode?
Alors, la mode, chacun connaît, c'est un besoin fondamental et c'est aussi un acte de culture. Et ces 50 dernières années, l'industrie de la mode a connu des évolutions qui sont d'ailleurs communes à pas mal de secteurs de production de biens, de production manufacturière, c'est-à-dire qu'elle s'est mondialisée et elle a aussi embrasé pleinement le modèle de l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est produire toujours plus, toujours moins cher, vendre toujours plus, consommer toujours plus et jeter toujours plus. Sauf que dans un contexte où les ressources naturelles ne sont pas infinies, ce modèle n'est absolument pas durable. Alors ce modèle, il a des conséquences. Il a des conséquences sur l'environnement.
Alors avant qu'on parle des conséquences, dites-nous juste comment ont évolué les dépenses des ménages pour l'habillement, si on prend les 20-30 dernières années.
Alors les dépenses des ménages, paradoxalement, elles ont baissé. Mais par contre, le nombre de vêtements achetés a considérablement augmenté. Dans un pays comme la France, on achète 3 à 4 fois plus de vêtements. Et au niveau mondial, on a aussi...
Alors qu'il y a toujours autant de jours dans l'année, hein, on est bien d'accord.
Il y a toujours autant de jours dans l'année.
On a trop de vêtements par rapport à nos besoins de s'habiller.
Il y a une partie des vêtements qu'on achète qu'on ne porte pas, puisqu'on sait qu'il y a entre 30 à 50% des vêtements qu'on a dans nos placards qu'on ne porte pas. Ce qui veut dire qu'on achète...
Vous ne faites pas allusion à une classe très aisée en Europe, là ?
Non, pas forcément, parce que ce phénomène touche toutes les catégories sociales. C'est-à-dire que comme le prix du vêtement a largement baissé, parce qu'il est produit très peu cher, grâce à une main-d'œuvre très peu chère, eh bien, on a effectivement toute la société qui est saturée de consommation de vêtements.
Alors, quand on parle du gaspillage de vêtements, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que les vêtements prennent le même chemin que les aliments du frigo ?
Oui, parce que, par exemple, si on prend l'exemple français, on sait qu'il y a seulement 30% des vêtements des textiles usagés qui ne sont pas valorisés. Dans ce chiffre-là...
Vous voulez dire 30% qui sont valorisés par rapport à tout le reste qui est jeté?
Il y a 30% qui est valorisé et il y a 70% qui n'est pas valorisé.
Donc qui part avec le reste des ordures ménagères.
Voilà, exactement. Et on n'inclut pas dans ces chiffres-là les invendus, les invendables, les chutes, donc l'ensemble des textiles qui sont pas usagés mais qui ne sont jamais portés, jamais utilisés.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filière textile pour les entreprises qui ont toute une partie de leur production qu'elles ne peuvent pas vendre pour des raisons diverses d'ailleurs.
Alors la filière, c'est la solderie. Après, il existe des projets mais qui restent encore à petite échelle par rapport à la masse de vêtements. On a eu récemment une publication dans la presse sur les invendus d'H&M qui représentent plus de 4 milliards de dollars qui étaient incinérés. Dedans, on ne sait pas si c'est des invendables, parce que parfois, il y a des vêtements qu'on ne peut pas commercialiser parce qu'il y a, par exemple, un pH du vêtement qui n'est pas bon. C'est-à-dire que le vêtement est toxique, que les personnes ne peuvent pas le porter. Donc, c'est ça, ce grand gaspillage. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en amont de ce gaspillage, on consomme des ressources naturelles, on consomme, finalement, on utilise des savoir-faire, on impacte la planète, tout ça, pour que ça finisse à la benne. Et c'est pour ça aussi que ce modèle n'est pas durable.
Alors, ce que les consommateurs commencent à connaître, c'est l'exploitation des hommes et des femmes qui produisent ces vêtements à très bas coût. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet ? Parce que bien sûr, on a en tête le Rana Plaza, mais c'est toute une chaîne et il n'y a pas que le Bangladesh.
Alors d'abord, on a la chance d'avoir effectivement Naïa Jaltouni qui travaille beaucoup sur cette question et qui pourra en parler. Mais on sait qu'aujourd'hui, quand le prix dans un t-shirt, le prix de la main-d'œuvre représente 0,6% du prix d'un t-shirt qui est déjà à très bas coût, on sait pertinemment que le travailleur n'a pas un salaire décent pour vivre. Et il y a des tas d'initiatives aussi qui sont portées d'ailleurs par des syndicats dans les pays d'Asie du Sud-Est qui visent à revendiquer ces droits humains.
Naïla Jaltouni, vous représentez le collectif Éthique sur l'étiquette. 5 ans après l'effondrement du Rana Plaza, qui a fait plus de 1000 morts, qu'est-ce qui a changé justement ?
Alors, ce qui a changé, la première chose qui a changé, je dirais, c'est la prise de conscience citoyenne au niveau mondial de la façon dont sont produits nos vêtements et qu'a commencé en effet à expliquer Majdouline. C'est vrai que ça n'est pas simplement le cas du Bangladesh. L'ensemble du secteur textile est fondé sur l'utilisation d'une main-d'œuvre peu qualifiée en abondance. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux qu'une femme derrière une machine à coudre pour fabriquer des vêtements. Et cette main-d'œuvre, elle se trouve à bas coût dans les pays où les droits sociaux sont bafoués, tels que le Bangladesh, qui en plus a été poussé par les grandes multinationales, mais aussi par des accords commerciaux avec l'Europe, à se spécialiser dans une production en faible qualité, en grand volume, pour offrir des vêtements peu chers.
Et avec une cascade de sous-traitants qui faisait dire aux marques que c'était très compliqué pour elles de savoir exactement dans quelles conditions étaient produits les vêtements.
Parce
c'est vraiment une chaîne de sous-traitance.
C'est une chaîne de sous-traitance, c'est-à-dire que les entreprises, les marques ne possèdent plus leurs unités de production, ils sous-traitent par le biais de contrats la fabrication à une myriade d'usines qui elles-mêmes vont sous-traiter pour l'amont de la chaîne. Et il est probable que certaines de ces grandes multinationales ne savaient pas que leur production était au Rana Plaza, mais c'est précisément le problème. C'est-à-dire qu'en diluant leur chaîne de sous-traitance, ces grandes marques internationales ont dilué leurs responsabilités, ce qui rend très difficile ce qu'on appelle l'accès des victimes à la justice, à l'indemnisation, et surtout qu'on puisse prévenir ces futurs risques. Et pour cela, il faut changer le modèle économique. Quand on dit que la part effectivement du vêtement dans le budget des ménages baisse, peut paraître positif pour le consommateur, mais c'est parce que, à l'inverse des phénomènes économiques irrémédiables telles que l'inflation, le coût de la main-d'œuvre et la part a baissé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont de moins en moins payées et avec un impact de plus en plus important sur l'environnement pour fabriquer nos vêtements.
Et ça, le consommateur l'a découvert il y a peu de temps, parce que pendant longtemps, la mode, c'était la créativité et puis la baisse des prix, c'était enfin l'accessibilité pour tout le monde, pouvoir s'habiller de manière agréable, de manière à se faire plaisir, à se sentir valorisé pour un prix très bas. En France, la loi sur le devoir de vigilance qui a été votée l'année dernière oblige les entreprises maintenant à s'assurer que leurs activités ainsi que celles de leurs sous-traitants respectent les droits humains fondamentaux, respectent l'environnement. Qu'est-ce que ça change par rapport à justement ce qui se passe depuis le Rana Plaza ? On a 200 marques internationales qui ont signé un accord en 2013 avec le patronat local, avec les organisations syndicales. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et que se passe-t-il pour des entreprises domiciliées en France ?
Alors, l'accord que vous évoquez, c'est la deuxième grande évolution après le Rana Plaza et malheureusement, ce sont des évolutions a posteriori. C'est que les marques, poussées par leurs consommateurs, ont accepté de signer un accord contraignant qui les oblige à sécuriser leurs usines, hein, à financer un système indépendant d'inspection au Bangladesh. Donc ça, c'était une vraie évolution. On peut dire aujourd'hui que 1600 usines sur les 2005 que compte le Bangladesh dans le textile sont plus ou moins sécurisées. Cet accord doit être prolongé. Mais parallèlement, ce qu'il nous a fallu faire, et c'était le combat d'éthique sur l'étiquette, mais d'un tas d'ONG et de syndicats, c'est de faire en sorte que cela n'existe plus. Donc d'imposer malheureusement, je dirais, par la loi, parce qu'on voit bien que l'autorégulation ne fonctionne pas, que malgré des Rana Plaza, mais les entreprises ne font pas évoluer leur modèle économique, continuent à faire pression sur les coûts, les délais de production, parce qu'elles ont trouvé là un système extrêmement rentable. Il y a certes une demande des consommateurs pour des produits extrêmement bas, mais enfin, le consommateur n'a pas créé le système de
la
fast fashion.
Alors, vous voulez dire que la pression sur les prix continue de s'accroître, et également la pression sur les délais de production aussi.
Oui,
et le fait qu'il y ait tout le temps plus de créations, plus de modèles.
Tout à fait, et un récent rapport d'université américaine que je pourrais vous mettre en ligne, montre même que la pression sur le prix d'achat aux fournisseurs s'est accrue depuis le Rana Plaza au Bangladesh. C'est-à-dire que malgré tout, précisément parce
pour
que rien n'entrave
pour augmenter les marges,
économique.
Pourquoi il y a plus de pression la production?
Bien sûr, parce que le modèle économique est foncé sur une pression sur les coûts, c'est-à-dire on produit à plus faible coût pour offrir de plus faibles coûts aux consommateurs. Simplement pour répondre sur la loi devoir de vigilance, ce qu'elle oblige désormais, c'est...
Que pour la France, que pour les entreprises domiciliées en France.
Et seulement pour les très grands groupes de plus de 5000 salariés. Ouais. Désormais, ils ont l'obligation, et tous les citoyens peuvent vérifier aujourd'hui en ligne si elles l'ont fait, doivent publier un plan de vigilance dans lequel elles montrent les risques de violation des droits humains, d'atteinte grave à l'environnement que peut causer leur activité, et mettre en place des mesures pour les prévenir. Sinon, enfin, je dirais, on pourra faire intervenir un juge qui pourra potentiellement sanctionner.
Hélène Sarfati-Leduc, est-ce qu'au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui est coupable? Ou est-ce que c'est finalement ce marché de l'offre qui est coupable?
Moi, je dirais que... Déjà, il faudrait rappeler que l'industrie textile est extrêmement mondialisée et qu'elle a X étapes de production. Et donc, forcément, c'est une industrie aussi de main-d'œuvre. Et donc, on est allé délocaliser, externaliser, en fait, ces contraintes dans des pays à faible coût. Alors, on a, quelque part... Effectivement, on va dire biberonner le consommateur à un prix bas, au point qu'aujourd'hui, ils ne connaissent plus le vrai prix des choses. Mais moi, ce que je dirais, c'est quand même qu'il y a un bémol. Depuis, ça fait à peu près 15 ans que je suis sur le sujet de la mode responsable. On peut l'appeler mode responsable, mode éthique, voilà. C'est qu'on, j'ai vu une très nette évolution aujourd'hui, quand même, sur... on voit que les chiffres, par exemple, de fast fashion sont en train de baisser. On parlait tout à l'heure des invendus et des vêtements brûlés. C'est que quelque part, il y a un bon signe, c'est qu'il y a plus de vêtements brûlés, donc moins de vêtements qui se vendent. Donc globalement, dans les pays, on va dire, matures, les pays d'Europe du Nord, globalement, il y a une prise de conscience.
C'est ça, parce qu'au bout d'un moment, les placards sont trop pleins, c'est ça c'est d'indigestion du consommateur.
Oui, il y a de plus en plus l'impression, la question des ressources qui se raréfient. Et moi, je dirais que quand même, si les entreprises décident de bouger, c'est beaucoup plus pour une question de gestion des risques. Gestion des risques de pénurie de matières premières, des risques justement juridiques où elles risquent de se faire épingler par leurs consommateurs si on découvre des substances toxiques dans les vêtements. Il y a au fait le pouvoir des médias et des réseaux sociaux qui a énormément changé les choses.
Est-ce que quand même là vous ne faites pas allusion à une toute petite partie des consommateurs, à ces consommateurs très éclairés, et surtout qui lisent, qui se documentent et qui ensuite adaptent leurs actions avec leur porte-monnaie par rapport à ce qu'ils lisent. Parce qu'entre ce qu'on lit, ce qu'on a vu à la télévision et ce qu'on fait avec son porte-monnaie, on le sait bien, il y a une énorme distance. Combien de consommateurs regardent l'étiquette d'un vêtement quand ils sont dans un rayon, dans un magasin ? François-Guilain Morillon, vous, comment vous avez vu évoluer l'attitude du consommateur puisque vous avez fondé les baskets Veja il y a 13 ans, on en parlera après, mais parce que vous êtes obligé d'être un fin observateur.
Nous, on a senti quand même, déjà il y a 13 ans, ou bien avant le Rana Plaza, qu'il y avait une attente, enfin en tout cas nous, on l'a ressenti chez nous, une attente de porter, en l'occurrence des baskets, qui soit respectueuse de l'environnement et de l'homme.
Il y a 13 ans, à contre-courant vraiment de tout le marché du sportswear. Quand
à
même.
Contre-courant du marché du sportswear, mais avant les scandales dont vous parlez, il y avait déjà eu des scandales autour de Nike, notamment avec les révélations de Michael Moore, qui avait fait un film sur les pratiques sociales de Nike. Ouais. Donc nous, on a été aussi biberonnés au marketing de Nike, mais aussi à ces films un peu rentre-dedans. Et du coup, plutôt alors, que de se poser contre ces pratiques, on s'est dit on va essayer de trouver une autre voie, une alternative. Et on a réfléchi très simplement à comment on fabrique une basket, où est-ce qu'on peut la fabriquer, et essayer d'avoir un impact positif plutôt que de prendre en effet ce chemin qui, je pense, est un peu déshumanisant et déshumanisé. C'est-à-dire que quand on dit les entreprises ont signé, mais il ne faut pas oublier que c'est des gens, ces entreprises. Donc on a perdu un peu le fil humain de cette industrie qui est devenue, comme si elle était devenue folle en fait, toujours tirée par...
Ce n'est pas la finance, ça n'est que de la mode, des t-shirts et du jean, et pourtant effectivement ça dysfonctionne grave. Vous nous appelez bien sûr si vous voulez en savoir plus sur cet envers du décor et du vêtement, 33 1 84 22 71 71.
La tête dans son téléphone, sans écouteurs on la croirait folle, sans Google on la croirait conne, et sans filtre on la croirait bonne. C'est trop facile de juger, c'est trop facile de juger, si son but dans la vie c'est de ressembler à Gigi. Mais sans chirurgie c'est plus Gégé que Gigi. Si l'école nous apprenait à faire des beaux selfies, pour mieux démarrer dans la vie, pour mieux démarrer dans la vie, sans savoir où on va, où on est, sans même savoir où on finirait, sans savoir où on est, où on va, sans même savoir où ça finira. La tête dans son téléphone, sans écouteurs on la croirait folle, sans Google on la croirait conne, et sans filtre on la croirait bonne. Ce qui compte c'est ce qu'on a dans le cœur et ce qu'il y a sur le compte. L'argent ne fait pas le bonheur, non. Il sert à fabriquer les bons, être belle quand on a de l'argent. C'est plus facile, non? L'argent pourrit les gens et il les rend beaux en même temps, c'est fascinant. On n'est pas tous égaux face à la beauté. C'est si facile d'être gros quand on les voit défiler. Petit, avant d'apprendre un métier, faut d'abord apprendre à retoucher la photo d'un CV. La tête dans son téléphone, sans écouteurs on la croirait folle, sans Google on la croirait conne, et sans filtre on la croirait bonne.
C'est Stromae, défilé, qui ne fait plus que chanter d'ailleurs maintenant. Il ne fait pas seulement que chanter, mais il s'est aussi lancé dans la production de prêt-à-porter. On en parlait avec vous, Majdouline Sbahi, puisque vous avez publié ce livre extrêmement documenté. Une mode éthique est-elle possible ? On parlait de l'exploitation humaine derrière l'envers du décor des vêtements, mais il y a aussi tout un problème de pollution que l'on connaît beaucoup, beaucoup moins. La mode émettrait plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et maritime. Ça semble impensable.
Si on prend toute la chaîne justement de production jusqu'à la consommation, on a 1,8 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, ce qui représente plus que le transport aérien et le transport maritime. L'industrie de la mode, c'est aussi la troisième consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde, des ONG comme River Keeper.
Après l'agriculture, hein, bien sûr.
Oui, oui, mais elle consomme cette eau, je dirais...
Pour produire un jean ?
Pour produire un jean, s'il faut à peu près... Le chiffre qu'on cite le plus souvent, c'est pour un t-shirt, c'est 5000 litres d'eau.
C'est ça. Et pour un jean, plus de 6000 litres d'eau.
Voilà.
Ça semble énorme pour un jean, alors que la production est complètement industrialisée.
Oui. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le coton.
La culture du coton.
Voilà. En fait, ça dépend des matériaux que vous utilisez. Par exemple, le polyester, c'est deux fois plus de gaz à effet de serre que le coton. Le coton biologique, c'est moitié moins d'eau que le coton classique. Donc, à chaque fois, selon le type de matériaux qu'on utilise, on a des effets qui peuvent varier. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que les conséquences ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire que, évidemment, quand on pollue un milieu naturel, par exemple, comme les eaux de surface, ça a des conséquences sanitaires pour les gens, c'est des problèmes sur la santé, et puis ça a aussi des problèmes d'eutrophisation des milieux, c'est-à-dire que certaines espèces naturelles ne peuvent plus vivre. On met vraiment en danger des écosystèmes par ce biais-là. Et c'est vrai que c'est une pollution qui est invisible, elle est diluée sur l'ensemble de la chaîne de fabrication. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense que ce qui est important de dire, c'est que justement cette délocalisation de la production dans d'autres pays a rendu créer une forme d'invisibilité de ces impacts. Le savoir-faire, finalement, il est loin, on ne sait plus comment on fabrique un vêtement, mais aussi les impacts de la fabrication ont finalement été... et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout à l'heure, on évoquait justement la transformation de la chaîne de fabrication. On sous-traite la fabrication, on ne sait pas à qui. C'est-à-dire que déjà maîtriser sa chaîne de sous-traitance, c'est déjà un défi pour les entreprises. Et dans les années 90, quand il y a eu les scandales autour de Nike, le responsable de la production en Indonésie déclarait « Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans mes usines ». Et aujourd'hui, pourquoi les entreprises...
Ce qui n'est plus possible, je veux dire, politiquement aujourd'hui.
Oui,
aujourd'hui, même dans les pays où il n'y a pas de devoir de vigilance.
Mais comme tout s'accélère, c'est très compliqué. Et tout s'accélère. On a un nombre incalculable de collections par an. Avant, il y avait deux saisons. Maintenant, on réassortit les magasins en permanence. Et donc, tout s'accélère. On cherche tout le temps le producteur le plus rapide et le moins cher pour produire. Et les entreprises, finalement, elles appliquent les mêmes recettes que le passé. C'est-à-dire qu'elles appliquent les recettes de la fast fashion pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui dans un marché qui est complètement saturé. Le consommateur n'en peut plus, mais le marché, en France, par exemple, en 10 ans, le marché du prêt-à-porter a perdu 17%
Alors,
de sa valeur.
Il y a des initiatives qui sont intéressantes, comme la marque que vous avez fondée il y a 13 ans, François-Guilain Morillon. Comment vous êtes tombé dans le marché des baskets il y a 13 ans, alors que, bon, vous le disiez, bien sûr, on commençait à se poser des questions sur la fabrication des baskets mondialement connues, mais globalement, vous n'étiez pas dans le sens du vent.
Non, mais en fait, nous, on est parti de choses très concrètes. Pour éviter justement cette abstraction, parce que finalement on a l'impression que cette fabrication de textiles, elle devient presque abstraite parce que très loin, donc dans des endroits compliqués d'accès, loin, enfin où on ne va pas. Donc nous on est parti totalement de l'inverse, on s'est inspiré d'un modèle qui s'appelle le commerce équitable, donc qui était un modèle
qui existait
naissant
pour l'alimentation,
voilà,
pour
qui commençait à se développer beaucoup en Europe. Donc principalement sur des choses alimentaires, du café, du thé, du chocolat. Et donc nous, on a appliqué cette méthode de travail à un produit manufacturé, donc à des chaussures, et on est allé du coup remonter les filières pour concrètement fabriquer des baskets qui respectent la planète et les gens.
Alors, si on prend par exemple la chaîne, si on décompose le prix de vos baskets, qui sont vendues, pas bon marché, mais à peu près dans les prix des célèbres marques internationales, on va dire.
Voilà. Mais en fait, nous, on s'est rendu compte...
Comment vous faites d'ailleurs pour ne pas être plus cher, alors que vous payez beaucoup plus cher la production de vos baskets?
Ouais, alors c'est justement ça. Quand on a commencé à remonter ces filières, on s'est rendu compte que, comme vous le disiez tout à l'heure, il existe pour chaque produit un meilleur élève de la classe, quelque part. C'est-à-dire que si on veut travailler, on veut faire une chaussure en coton, si on achète du coton bio, eh bien, on va avoir une basket plus écologique. Si on veut travailler avec du caoutchouc, on peut travailler avec du caoutchouc équitable, qui vient d'Amazonie, comme c'est le cas.
Puisque vos baskets sont produites au Brésil.
Fois, voilà. Donc nous, on travaille avec des filières brésiliennes qu'on a intégrées, donc on va visiter ces gens-là et ça nous fait plaisir d'aller les visiter. On a réhumanisé
donc, cultivateur de caoutchouc rémunéré à un juste prix.
Voilà. Et donc avec un projet qui est celui de vivre dignement du caoutchouc dans la forêt, non pas déforester pour faire de l'élevage, mais au contraire valoriser sa production. Et de la même manière sur le coton, on a un projet d'agroécologie, donc des agriculteurs qui plantent du coton bio, mais qui plantent aussi du maïs, du sésame, des choses dont ils vont
pouvoir... C'est-à-dire que pour fabriquer vos baskets, vous allez vous balader en forêt pour voir vraiment...
Et oui, et donc on a des équipes avec des agronomes, des gens qui accompagnent au quotidien les agriculteurs. Donc évidemment, tout ça a un coût, donc vous le disiez. Donc nous, on achète nos matières deux fois le prix du marché, on va dire. Si on achetait des matières classiques, on paierait deux fois moins cher. On fabrique nos baskets au Brésil. Ça coûte 4 à 5 fois plus cher que si on les fabriquait en Chine. Comment ?
Ça veut dire que le coût de production de vos baskets par rapport à des baskets d'une très célèbre marque, c'est quoi en pourcentage ? Le coût de production
c'est
par rapport au prix de vente.
C'est 4 fois plus cher que la même basket produite en Chine. On a même fait la démarche d'aller
faire
des devis.
En Chine ou au Vietnam ou...
Voilà. Bon, alors pour la petite histoire, nous, on a fait des devis en Chine pour voir combien ça nous coûterait. Et on a d'ailleurs publié ce devis sur notre site internet où on a essayé de mettre le maximum d'informations sur notre travail. Et on s'est rendu compte qu'on était 4,5 fois moins cher que là où on les fabrique aujourd'hui. Mais alors du coup, on s'est posé cette question dès le début.
Pour vendre à peu près le même prix, vous ne faites pas de pub, vous ne faites pas de marketing.
Mais voilà, parce qu'on s'est rendu compte que sur l'industrie de la basket, dans l'industrie de la basket, mais finalement, c'est le cas de l'industrie de la mode, et si on regarde autour de nous, les téléphones, tout ça, c'est la même chose, la majorité de la valeur ajoutée, elle est investie dans du marketing, dans de la publicité. Donc les marques veulent produire toujours moins cher pour pouvoir investir et gagner des clients.
Alors comment vous avez fait pour vous faire connaître, à part venir dans des émissions de radio? Certes, on vous a beaucoup entendu dans les médias.
Eh bien du coup, la difficulté, c'est de faire des produits qui plaisent par eux-mêmes, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'être poussés en publicité ou en sponsoring.
Mais ça, c'est de l'histoire marketing. Dans la réalité, c'est pas possible. Aucune grande marque ne peut vivre sans communication.
La preuve que...
Alors, vous êtes tout petit, surtout. Vous êtes resté petit.
Alors, on est tout petit.
20 millions de chiffre d'affaires en 2017. Nike, c'est quoi ? C'est plus de 8 milliards de dollars, quelque chose comme ça ?
Oui, mais bon, si on regarde notre histoire, petit à petit, on est quand même moins petit. Donc, c'est vrai qu'on nous a beaucoup dit oui, mais c'est possible de le faire à une très petite échelle. Au final, nous, on produit 500 000 paires par an de basket aujourd'hui, 700 000 l'année prochaine. Donc on considère qu'on a quand même un impact qui commence à être significatif. Et surtout, on montre qu'il est possible de faire tout ça et d'être rentable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un modèle qui est un modèle qui, pour nous, est totalement dépassé de la fast fashion.
Et ça, vous voulez le faire savoir auprès de vos consommateurs.
Voilà, et c'est vrai que c'est même le but de notre entreprise qui s'appelle Veja. Veja, ça veut dire regarde. Donc c'est une incitation à regarder comment les produits sont fabriqués et regarder finalement différemment le monde, réhumaniser. Et quand on emmène, là, on a fait deux voyages avec nos équipes.
C'est exactement l'histoire qui plaît aux jeunes.
Alors, mais à tout le monde, en fait. On a emmené nos équipes sur le terrain, aller voir nos fournisseurs. Quel plaisir, quelle fierté. Quand eux, leurs yeux brillent, ils se disent « mais c'est génial ce qui est en train d'être fait ». J'imagine que pour certaines marques, ce serait un peu plus délicat d'emmener leurs salariés visiter les tanneries ou les usines avec lesquelles ils travaillent.
Hélène Sarfati ?
Alors justement, j'ai énormément d'étudiants d'écoles de mode, et donc un des signes forts du marché, c'est qu'aujourd'hui, 100% des écoles de mode en France, en tous les cas, intègrent la question de la mode responsable dans leurs enseignements. Donc il n'y a plus du tout, il n'y a pas une seule école qui en fasse l'économie, et que l'intégralité aujourd'hui des nouveaux projets développés par les étudiants qui vont monter des processus de collection de A à Z intègrent à 100% la notion de la responsabilité, de la chaîne de valeur, du sourcing responsable, et travaille justement sur les marges et arrive à proposer des offres qui sont responsables, faites assez proches des lieux de consommation et qui en même temps arrivent à des prix acceptables. Donc moi, ce que je trouve problématique, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de mode responsable, on parle de mode plus cher. Mais on peut être responsable de mille façons. On peut aller acheter des vêtements chez Emmaüs, un t-shirt H&M chez Emmaüs, vous faites une œuvre sociale, par exemple.
On a des auditeurs qui connaissent
alors,
bien les friperies.
Les friperies, c'est aussi... Alors voilà, on voit des vide-greniers, donc ça, on a, dans les pays d'Afrique, ça a été souvent perçu au départ comme un déséquilibre aussi des économies locales, parce que clairement, les tailleurs qui faisaient les vêtements sur mesure n'étaient plus sollicités, puisque l'Europe, l'Occident a inondé l'Afrique de ses fripes. Donc ça, c'est aussi un souci. Donc chez nous, ça reste encore faisable. Enfin, je veux dire, après, c'est beaucoup plus problématique en Afrique. Mais ce qui est à relever aussi, c'est qu'on note quand même que dans les pays d'Afrique notamment, ou d'Asie, il y a un retour très fort aux savoir-faire locaux, à la fierté nationale et à l'envie de valoriser ces savoir-faire locaux. Donc ça bouge de ce côté-là. Et maintenant, il y a aussi une contamination carrément de ces pays d'Afrique ou d'Asie vers l'Europe, hein, avec de plus en plus de gens qui ont envie d'acheter des vêtements qui ont un peu du sens.
Alors, est-ce que le marché va vraiment changer? Parce que pour le moment, c'est quand même pas ce que montrent les chiffres mondiaux. Mais est-ce que le marché va changer par l'attitude du consommateur ou par le changement de l'offre? On va en discuter. On vous donne la parole aussi au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine qui nous appelle de Paris. Bonjour Déborah.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors moi, c'est un petit peu le contraire là, de tout ce que vous avez expliqué. Moi, je récupère, c'est-à-dire que j'achète pratiquement pas grand-chose. Mais il faut dire que je suis d'une lignée de couturières et ma mère était modiste, pouvant travailler des matériaux qui sont a priori difficiles. Donc tout était recyclé. Et j'ai eu la chance d'aller dans des solderies à une époque où il y avait vraiment des choses de qualité. Alors j'ai toujours tout récupéré. J'ai été prise à partie cet hiver par deux militantes véganes parce que je porte un manteau de cuir depuis le 7 janvier 1962. C'est un Mac Douglas. Ouais. Il est bien entendu que maintenant je n'achèterai plus.
Bon, il est bien amorti donc le manteau de cuir. Hein, effectivement,
ah oui,
vous ne l'avez pas gaspillé depuis 62.
Non, et puis là, les dames étaient très agressives. C'était des dames qui étaient moins âgées que moi, qui commençaient à m'attaquer. J'ai fini par leur dire, moi je porte le manteau de mes 16 ans, est-ce que vous pourriez?
Ouais.
Vous voyez, je suis pas méchante. Moi, en plus, je suis d'une famille de végétariens, donc c'était
vous
pas
vous
très
sentez,
sympa.
Vous vous sentez plus éthique, Déborah, finalement, en gardant depuis des années vos vêtements, que la nouvelle mode végane du vêtement?
Oh ben, je trouve que c'est idiot, parce qu'ils ne se posent pas la question comment c'est fabriqué. Moi, j'ai été élevée Vicler dans les années 50. Le fondateur de la Vicler, c'était un gazé de la guerre de 14. Et on nous disait déjà à l'époque qu'il fallait faire attention même à nos culottes, parce que s'il y a par exemple des produits toxiques au niveau des muqueuses, ça pénètre très vite dans le corps. Tout ça, j'étais au courant. Récemment, on m'a donné un t-shirt noir qui était pas mal, parce que je me fais mes jupes en tricot avec une aiguille circulaire. Ça a toujours du chic. Mais il me faut des fois des hauts, et puis on trouve plus les beaux tissus. Alors le t-shirt, je l'ai fait tremper dans de l'eau pure, il était noir au bout d'un quart d'heure. Alors autant vous dire que je l'ai jeté.
Ouais, effectivement, il y a un petit problème de teinture. Merci de nous avoir appelé, Déborah, en tout cas. On accueille un auditeur qui nous appelle. De Fustel est en ligne avec nous, 33 1 84 22 71 71. Bonjour De Fustel.
Bonjour Emmanuel, comment ça va?
Vous êtes en Italie, vous êtes d'origine camerounaise, vous nous appelez de temps en temps d'ailleurs, vous êtes un expert de la mode et vous souhaitez participer au débat sur l'envers du décor. La mode peut-elle devenir éthique?
Ben, ça dépend de la mode justement, ça dépend de l'industrie, de comment elle voit demain.
Donc,
je veux dire.
Pour vous, ça dépend de l'offre et pas du consommateur finalement, c'est-à-dire que c'est à l'industrie
de proposer des produits plus propres. Ça dépend et de l'industrie et bien sûr du consommateur, parce que il y a aussi un processus d'éducation que nous devons faire. Quand je dis nous, c'est nous qui travaillons dans l'industrie pour pousser le consommateur à aller plus vers le produit que vers des trucs brandés, quoi. Vers l'origine du produit, quels sont les différents process qui interviennent pour avoir le produit final, que vers le produit brandé. Je veux dire, je peux prendre un exemple. J'ai un ami qui s'appelle La Douma, que vous devez peut-être connaître, qui est designer en Afrique du Sud. Dernièrement, il travaille avec des matériaux locaux, de très beaux matériaux, des imprimés sur ça, comme ça. Et puis, il a une marque de chaussettes également, enfin, une collection, un modèle de chaussettes qui a été copié par Zara il y a à peine un mois et demi. Mais vraiment, point pour point, copié par Zara. Il trouvait ça dans la boutique Zara d'Afrique du Sud. Mmh. C'est pas normal. Oui. Donc ça, c'est pas éthique. Lui, il a une démarche éthique, mais
disons
l'industrie n'a pas.
Disons que ça n'est pas juste. Et ces fameuses chaussettes sont produites avec du coton africain en circuit court?
Absolument. En circuit court, absolument. À 100%. D'ailleurs, il se ravitaille auprès des femmes.
Alors,
de son ethnie. Hein.
Vous posez une bonne question, effectivement, De Fustel. C'est que cette vague sur laquelle beaucoup d'entreprises éthiques souhaitent se positionner, les grandes marques ont bien compris aussi aussi comment surfer sur cette vague-là. Hein. Je pense que là-dessus, vous allez pouvoir nous apporter des précisions, Majdouline Sbahi. Les grandes marques actuelles que l'on ne va pas citer se sont déjà positionnées en termes de communication. En Suède, par exemple, on peut dire que H&M est assez fébrile sur le sujet.
Effectivement, il y a tout un des créateurs qui ont fondé tout leur business model et une entreprise comme Veja en est un parfait exemple à un moment sur vraiment cette approche éthique, cette approche responsable ou équitable de la mode. Et il y a aujourd'hui des initiatives qui sont prises par des entreprises. Souvent, il s'agit de collections capsules, c'est-à-dire c'est quelques pièces qui sont produites en consommant moins d'eau, quelques pièces qui sont produites en matière recyclée et toute une communication aussi qui peut l'accompagner. Moi, je crois que pour avoir justement rencontré encore la semaine dernière ces grandes marques qui sont venues dans un forum de la mode circulaire, donc la mode recyclée en quelque sorte, la semaine dernière, elles vont en prendre encore plus dans l'avenir. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Moi, je crois dans l'absolu qu'il faut être bienveillant, donc oui. Maintenant, vu l'ampleur du problème auquel nous avons à faire face, l'auditrice qui disait « mon t-shirt dégorge », en fait, il y a selon une étude de Greenpeace, il y a deux tiers...
Un t-shirt avec des teintures naturelles dégorge encore plus.
Oui,
hein.
mais c'est un exemple. Oui. Dans ce qu'on peut trouver, là, c'est une étude qui a été menée par Greenpeace, dans les collections de prêt-à-porter, on a deux tiers des vêtements qui ont été testés comme toxiques, c'est-à-dire contenant des perturbateurs endocriniens. Et j'ai évoqué tout à l'heure tous les problèmes environnementaux que ça suscite. Donc, ce n'est pas à la taille, à l'échelle du problème. Prendre une petite initiative, ce n'est pas à l'échelle du problème. Aujourd'hui, c'est véritablement un changement de paradigme, je dirais, et faire en sorte que toute la chaîne de valeur soit revisitée. Et c'est bon pour leur avenir aussi, parce que des études comme celle de la Fondation Hélène MacArthur montrent que un meilleur recyclage des vêtements, c'est 422 milliards de dollars de recettes, enfin de valeurs créées. Et une autre étude montre que le marché du seconde main représentera plus que celui de la fast fashion en 2027.
Donc c'est plausible ça ? Que le marché de la seconde main représente plus que le marché du vêtement neuf en 2027, c'est-à-dire dans moins de 10 ans ?
Oui. Aujourd'hui, c'est
juste hybride, je pense qu'il y a une hybridation de la consommation.
Juste une chose qui est importante. Moi, je viens de Roubaix. À Roubaix, on était leader mondial de l'industrie de la laine. En quelques années, en quelques décennies, les châteaux de l'industrie, il faut les voir pour comprendre ce que ça veut dire un château de l'industrie, se sont effondrés. Les entreprises ont fermé. Moi, je crois que les mutations dans un monde qui s'accélère peuvent aller très vite. C'est-à-dire que si même les entreprises françaises ou des entreprises qui aujourd'hui emploient beaucoup de gens ne prennent pas ce virage, elles se mettent en danger également, elles mettent en danger leurs employés. Et donc, il faut absolument qu'elles comprennent que ce changement est nécessaire pour elles également.
J'ai lu sur un article de Bloomberg que les Américains, puisqu'ils sont toujours quand même assez précurseurs sur pas mal de choses, que les Américains ne s'intéressent plus à la mode, ne s'intéressent plus aux vêtements. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y aurait vraiment un tassement de la consommation en Amérique du Nord sur ce secteur-là ? Bien sûr, on sait qu'ils consomment énormément de nouvelles technologies, beaucoup de produits aussi pour la maison.
Là, cet article, effectivement, c'était différent. C'était de dire qu'une certaine catégorie de la population a descendu la mode au rang de préoccupations complètement connexes par rapport à du voyage, à l'électronique, enfin des choses, voilà. Mais après, moi, ce que je dirais, pour revenir là-dessus, c'est qu'une entreprise, par définition, n'a rien de philanthropique. Encore une fois, son objectif, c'est de faire du profit. Aujourd'hui, si massivement, elles commencent à se préoccuper des questions de contrôle de leur chaîne de valeur, de repenser leur business model, d'essayer de réduire leur production, c'est pas uniquement, et pas du tout, même je dirais, parce qu'elles sont soucieuses de la planète, c'est surtout parce qu'elles pensent à leur modèle économique. Quand vous voyez que le luxe, comme Kering, commence à lancer le luxe par abonnement, et que maintenant, on est en train de complètement sortir de la logique de la possession. Alors, je pense qu'à horizon 20 ans, on aura des vestiaires hybrides, c'est-à-dire qu'on aura des parties, des choses qu'on aimera, qu'on achètera. Suivant qu'on soit attaché à la marque ou à l'objet, on louera des vêtements, on pourra les acheter d'occasion. Donc, on est vraiment en train d'évoluer. Évidemment, encore une fois, dans les pays matures, mais ça commence à bouger dans les pays, on va dire, un peu moins développé, entre guillemets, parce qu'on se réapproprie aussi ces savoir-faire locaux. Ouais. Et c'est vraiment un mouvement, moi je suis très optimiste, rien qu'avoir le nombre d'entreprises aussi qui se penchent sur le sujet.
Naila Jaltouni, sur l'étiquette, le collectif.
Oui, je crois aussi qu'il y a une lassitude des consommateurs de cette obsolescence programmée qu'on leur propose dans différents secteurs, y compris dans le vêtement. Et qu'il y a aussi un retour à une qualité, une matière.
Les vêtements en Europe, en Amérique du Nord, ils sont jetés pas parce qu'ils sont déchirés, dirais, immétable. Hein. C'est pas comme les ordinateurs.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on porte 5, dans la fast fashion, on porte 5 à 7 fois. On sait que l'on achète un vêtement pour le porter 2 mois et il est moins portable parce qu'il est déformé, etc. Et aussi parce qu'on est rentré dans un système de surproduction.
C'est mal accepté socialement de porter des vêtements usés, en mauvais état aussi. Mais on ne peut pas dire que les vêtements soient jetés parce qu'ils sont importables.
Non, mais précisément, on achète des vêtements dont on sait qu'ils vont nous tenir parce qu'il y a une question de qualité qui s'est dégradée quelques semaines, quelques mois. Donc, on rentre aussi dans ce système. Et je trouve que dans les alternatives, il y a un retour à du produit mieux fait, mieux conçu, alors, une bonne matière.
Et ça
fait évoluer le modèle économique et l'émergence de nouveaux acteurs.
Il y a une accélération des réglementations sur les substances toxiques, sur le travail des enfants, sur la RSE des entreprises. Est-ce que pour une entreprise comme la vôtre, François-Guilain Morillon, même si vous vous êtes d'emblée positionné sur une mode éthique avec vos baskets Veja, est-ce que cela vous complique la tâche ou pas ? Ou ça va dans votre sens, l'augmentation des réglementations ?
Bon, alors malheureusement, les réglementations sont encore vraiment très, 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 très rares et pâquerettes. Mais évidemment, pour nous, ça donne une grille. Et on essaye toujours d'être bien au-dessus des réglementations existantes, ce qui est le cas avec REACH, par exemple, qui est le minimum syndical qui doit être fait au niveau des produits chimiques. Énormément de marques qui, pourtant, ont pignon sur rue, ne respectent pas, alors que ça devrait être obligatoire de le respecter. Donc nous, on essaye toujours de faire mieux, d'être en avance. On dépense beaucoup d'argent en ce moment en recherche et développement pour développer des nouvelles matières, des nouveaux polymères. Donc voilà, on prépare aussi l'avenir. Je pense qu'il faut être aussi, en tout cas à notre échelle, on est assez patient.
Des matières équitables pour ceux qui travaillent, qui produisent et en même temps respectueuses de l'environnement. Juste en quelques mots, j'aimerais que vous nous disiez, Majoulin Zbahi, comment s'habiller éthique aujourd'hui pour le consommateur ? Quelques conseils concrets ?
Un peu comme dans l'alimentaire, il y a une reprise de pouvoir par rapport à l'acte d'achat qui doit exister. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on vendait pas, par exemple, des légumes non calibrés. On disait que les consommateurs n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, on peut acheter, exemple, voilà, les légumes moches. D'abord,
ce qu'il faut s'habiller sur moche.
Vous êtes
en train de nous dire ça.
Non, pas du tout. J'allais pas dire légumes moches en plus. Non. Il faut vraiment se réapproprier l'acte d'achat. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que ça me plaît vraiment ? Est-ce que ça me met vraiment en valeur ? Est-ce que ça accompagne mon mode de vie, etc. Ensuite, il y a le fait de se tourner vers des marques éthiques qui sont transparentes. Où c'est fait ? Comment c'est fait ? De quoi est composé mon vêtement ? Et le fait, par exemple, aussi d'acheter de seconde main est une bonne option parce que plus on allonge la durée de vie d'un vêtement, plus on a un impact écologique positif puisqu'il n'est pas jeté, au contraire il est valorisé. Mais là, c'est vraiment, je crois que le
commerce
point de départ,
en ligne par exemple, ça peut valoriser, ça peut contribuer à aider le consommateur dans son acte d'achat, le fait d'acheter sur internet, alors qu'on sait qu'en fait dans la plupart du temps on ne sait pas où c'est fabriqué quand on achète en ligne,
alors,
sauf les marques qui
revendiquent. Il y a des évolutions, aujourd'hui vous avez des marques que je ne vais pas citer mais qui sont des marques 100% digitales qui sont nées il y a 2-3 ans, qui connaissent un essor incroyable et qui revendiquent véritablement le made in proche Europe, pas forcément France. Et puis vous avez aussi des plugins par exemple qui sont en train de se développer, c'est-à-dire des petites applications qui vont permettre, quel que soit le site où on achète, de connaître l'impact environnemental. Et d'ailleurs on parlait réglementation, ça c'est très important. Le gouvernement est dans la feuille de route de l'économie circulaire prévoit un affichage environnemental sur tous les vêtements comme ce qu'on connaît dans l'électroménager.
J'incite quand même beaucoup les gens à poser des questions parce que pour finir de répondre à votre question, plus que la réglementation, c'est en fait nos clients qui nous challenge entre guillemets, qui nous posent des questions, qui nous disent mais ça, pourquoi vous le faites comme ci et pourquoi vous faites comme ça. Et du coup, aujourd'hui, on parle en direct avec ses clients via les réseaux sociaux. Et du coup, on est beaucoup sollicité par nos clients.
Vous n'avez pas les clients habituels des baskets, on va dire, ceux qui achètent des Veja. Merci en tout cas à vous tous. Je suis désolée, on a encore un sujet à écouter. Merci à vous tous. Dans quelques instants, ce sera l'Afrique qui gagne. Remarquez, on va rester un tout petit peu aussi dans le même sujet.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique qui gagne, comme chaque lundi. Aujourd'hui, portrait d'Annie Darlène Dorimana, 26 ans. Elle est fondatrice de l'organisation Pépinière de jeunes professionnels au Burundi. Produit des accessoires de mode à base de plastique recyclé. Son initiative, RC Retraining, a été repérée par le Forum international Jeunesse et Emploi Vert de la francophonie, qui se tenait à Niamey, au Niger, en mars dernier. Et c'est là que je l'ai rencontrée.
Bonjour, je suis Annie Darlène Dorimana. Je suis burundaise. J'ai 26 ans et je suis fondatrice d'une entreprise de recyclage. Je fais la récupération et le recyclage des emballages plastiques pour en faire des objets de mode et de récupération. Au départ, j'ai fait le droit en fait et j'ai aimé la protection de l'environnement et j'étais dans une association des jeunes professionnels. J'ai d'abord eu une mauvaise expérience avec le sachet plastique pour faire un feu pour la cuisson. Et depuis ce jour, j'ai des allergies. J'ai toujours du mal à respirer le matin et tout ça. Et je me suis dit, il faut que je commence à m'intéresser aux effets néfastes de ce plastique. C'est là que j'ai commencé avec les recherches du plastique et des bouteilles en plastique en 2014. À Gatunguru, c'est plus au nord de la capitale de Bujumbura, il y a eu une inondation. Et quand je faisais les recherches, j'ai vu que les plastiques, lorsqu'ils bouchent les tuyaux de canalisation, ils peuvent causer une inondation. Je me suis dit, il faut que je me lance dans cette bataille. J'ai toujours été environnementaliste, j'ai toujours aimé ce qui est de la protection de l'environnement, mais là, je me suis dit, il faut que je me focalise beaucoup plus sur la récupération des bouteilles en plastique et sachets en plastique. Alors, j'ai commencé bien sûr timidement dans ma chambre avec des essais. Et par après, j'ai commencé à faire des produits comme la décoration des sandales, des bijoux comme les bracelets, les boucles d'oreilles. Et maintenant, je fais aussi la décoration des tableaux, des poufs en plastique. Et c'est là, alors que je me suis lancée, j'ai commencé à chercher des clients timidement, en montant petit à petit. Et maintenant, je suis arrivée à une entreprise.
Comment trouvez-vous le plastique recyclé ?
Je cherche les gens pour faire le ramassage. Et puis, je place des poubelles dans des bureaux. J'ai déjà placé des poubelles dans les bureaux d'Adisco. C'est une ONG locale chez nous. Et dans les familles, je les dis, ne brûlez pas les plastiques. Non, j'étais pas les plastiques. Mais moi, je passe les vendredis pour les prendre.
Qu'est-ce qu'on vous répond?
Certains ne comprennent pas. Et d'autres disent, OK, bon, toi, on te connaît avec tes sachets, on t'amène sans bien comprendre. Et
vous donnez de l'argent en échange?
Pour les bouteilles en plastique, je paye. Je paye les gens pour le ramassage parce que ce sont des gens que je ne connais même pas, qui font le ramassage, les poubelles. Et puis je dis, je vous propose de l'argent et allez amenez-moi des bouteilles. Voilà.
Et ensuite, que faites-vous de ce plastique?
Les sachets, je les découpe et je les tisse à la main. Et pour ça, j'ai formé cette femme pour le tissage. Actuellement, je porte deux bracelets qui sont faits dans les bouteilles en plastique.
Super beau, avec des perles qui sont cousues sur un cercle récupéré d'une bouteille plastique.
Oui, c'est une bouteille plastique découpée en petits morceaux et je couds dessus avec des perles. Et actuellement, je porte aussi une broche que j'ai faite avec des sachets plastiques. Certains tissés, d'autres en forme de fleurs.
Aujourd'hui, être une femme entrepreneur au Burundi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Au Burundi, être femme entrepreneur, ça veut dire maintenant modèle. Ça veut dire indépendance. Parce que nous, avec notre société, on a été élevés d'une manière d'être toujours dépendante, soit de nos parents, soit de nos maris. Alors si tu es entrepreneur, on te voit comme modèle. Elle a osé. C'est une fille qui ose, c'est une fille courageuse, c'est une fille mais à craindre.
À craindre ?
Oui, parfois... tu es taxée d'autoritaire. Oui, trop indépendante, mais d'autres disent « on t'envie ».
Est-ce que vous faites peur aux hommes, Annie Darlène?
Ça fait fuir les mauvais et ça fait venir les bons.
Ah bon? C'est vrai?
En fait, dans notre société, être trop indépendante, bien sûr, les hommes peuvent avoir peur de toi. Et ceux qui comprennent sont les plus instruits, en fait. Oui.
Annie Darlène, est-ce que vous avez un modèle pour l'Afrique qui gagne?
Il s'agit de mon oncle. Il m'inspire beaucoup. Il connaît mettre en valeur l'entrepreneuriat. Il connaît reconnaître les talents de quelqu'un. C'est par lui que j'ai pu émerger, que j'ai pu résister dans tout. Et je voyais sa façon aussi d'endurer et je me suis dit, c'est lui mon modèle.
Voilà, vous pouvez retrouver bien sûr toutes les informations sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr, notamment sur Annie Darlène Dorimana. Merci à vous tous, merci à l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique magazine et bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission. Avons-nous tous besoin d'un psy? C'est la question que pose une journaliste qui a enquêté sur ce phénomène des sociétés dites développées ou comment les psys se sont immiscés dans nos vies, dès l'école maternelle parfois. Et qui sait, si nous lisions davantage, nous aurions peut-être moins besoin d'une oreille payante pour notre vague à l'âme.